Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dernier épisode aujourd'hui de notre série d'histoires autour du foot. C'est jusqu'à 15h. Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
J'ai pleuré, pourquoi? Parce que j'adore le foot. Mais j'ai pleuré parce que je pourrais dire dans 20 ans à mes enfants, voilà, j'ai vécu ce moment-là. J'ai pleuré parce que on se rend pas compte aujourd'hui, on se rend compte dans 20 ans, comme je prends un exemple con, l'élection d'Obama, par exemple. Je pourrais dire à mes enfants dans 30 ans, quand ce sera dans un manuel d'histoire, je l'ai vécu, j'étais vivant. Donc voilà, bah pareil, la première Coupe du Monde des Bleus, j'espère qu'il y en aura d'autres. La première Coupe du Monde de l'équipe de France, avec des joueurs que j'admirais, parce que je vais pas être très original en disant que Zidane c'est un de mes idoles. Mais avec des joueurs comme Laurent Blanc, comme Didier Deschamps, comme Marcel Desailly, comme Youri Djorkaeff. Donc voir des joueurs qu'on admire vous apporter une joie immense, je pense qu'il n'y a pas de mots, quoi. Donc oui, j'ai pleuré, comme j'aurais très bien pu m'évanouir, comme j'aurais très bien pu... C'est des trucs qu'on calcule pas, quoi. Mais j'ai vécu, en fait, j'ai vécu l'histoire. C'est ça que je trouve fort. Sportivement, c'était un jour historique. On se souvient tous, on était où, à quelle heure, avec qui, limite, comment on était habillé.
C'était en 1998, le 12 juillet, l'équipe de France de football devenait champion du monde pour la première fois en gagnant 3-0 contre l'équipe du Brésil. Nordine avait 10 ans à l'époque et vivait en banlieue parisienne. Depuis, il est devenu journaliste sportif et a traversé le périphérique. Saïd, lui, avait 20 ans, pur Montreuillois, il était moniteur de colonies de vacances. Maintenant, il s'appelle DJ P-Boy et il mixe dans un pub du côté de la Bastille. Dave, enfin, avait 30 ans, informaticien, il vit toujours à Paris. C'était l'époque des blagues blanc-beurre et tout le monde criait alors « Zidane, président ». Sur l'Arc de Triomphe, il y avait une photo, gigantesque photo du héros kabyle et marseillais, mais surtout bleu, blanc, rouge. C'était l'époque où personne ne parlait de quotas limités de binationaux dans les équipes de football, ni d'immigration incontrôlée, et encore moins de la possibilité que les Français ne se sentent pas chez eux. C'était l'époque où une poignée de joueurs, dont certains d'origine étrangère, avaient fait la fierté de la France, sa gloire. Une époque où le racisme ordinaire et la xénophobie étaient à son plus bas niveau. C'était une belle fête autour d'un homme, Zidane, que nous avions envie de nous remémorer, sans doute aussi pour mesurer avec amertume quel triste chemin nous avons parcouru depuis. En tout cas, jusqu'à 15h dans les pieds sur terre, quartier d'été, sur France Culture, c'est la fête.
La France a basculé dans la liesse, dans l'euphorie, dans le bonheur.
Je m'appelle Dave, David. J'ai pas de télé chez moi. Et du coup, je voulais vraiment voir cette finale. Toute la Coupe du Monde a été un petit peu spéciale. Je pensais voir sur grand écran à l'hôtel de ville. Et c'était blindé de monde. Blindé, inimaginable. Je me suis dit, bon, je vais remonter un peu la rue de Rivoli et je vais me trouver, un petit café avec une télé, un écran, quelque chose. Je connaissais ce bar, le Pic Clop, qui se trouve rue du Roi de Sicile, Et je me suis dit, je suis sûr qu'ils ont une télé, quoi. Il se trouve que dans la rue, il y avait plusieurs télés. C'était vraiment la fête, quoi. C'était la fête avant la finale. Vraiment, les gens, c'était l'été. Il y avait un Félix Potin en face, le bar. Les gens achetaient de la boisson, des chips et machin. C'était vraiment, vraiment la fête. Donc, je m'installe. Le bar était blindé. La télé était orientée du côté des fenêtres. On ne pouvait pas rentrer. Donc, je me suis dit, bon, on va se poser là, puis on verra bien. Donc, on essaye de suivre, on regarde de loin, on se bouscule un peu, et on voit qu'on n'arrive même pas à voir, quoi. On voit même pas l'écran de télé qui était en hauteur. Il y avait des voitures garées, comme aujourd'hui, là, devant le bar. Et je ne sais pas comment ça a commencé, mais quelqu'un a commencé à monter sur le capot, puis carrément sur le toit de la voiture. Une personne, deux personnes, trois personnes. Je me suis dit, allez, pourquoi pas moi ? Et on s'est installé carrément sur le toit de la voiture. Et on a passé, enfin moi j'ai passé pratiquement tout le match sur le toit de la voiture. On ne comprenait pas ce qui se passait. On était trop loin de l'écran, il n'y avait pas de son vraiment, les gens gueulaient. Subitement, un bruit de folie, une explosion de joie, premier but.
Ils sont dans le couloir, l'équipe de France de football, dans le couloir qui les mène du vestiaire au terrain. L'équipe de France, tout de bleu vêtu, maillot bleu, short blanc et bas rouge. Et l'équipe du Brésil avec son traditionnel maillot jaune. Beaucoup d'émotions dans le couloir de l'équipe de France. On voit dans les yeux des joueurs, notamment du gardien de l'équipe de France de football, eh bien, l'énorme envie de s'imposer, de gagner cette 16e Coupe du Monde de football. On voit également les joueurs de l'équipe du Brésil et notamment eh bien, Junior Baiano. Il y a quelques secondes, il fermait les yeux. Il était hyper concentré.
Ça y est, de 28 ans, amoureux de football, grand supporter de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain. Le 12 juillet 1998, c'était mon premier jour de la colonie dans laquelle ma mère m'avait envoyé. J'étais aux Canaries, à Tenerife. Et je ne me souviens pas toutes mes colos, mais je me souviens de cette colo parce que c'était le premier jour donc de cette colonie. Je connaissais personne. Et c'était ma dernière colo. Donc je voulais qu'elle soit mémorable. Merci les Bleus. Non, donc premier jour. Donc la veillée du premier jour facile, on est tous conviés à aller voir le match en centre-ville, un espèce de petit centre commercial avec des escaliers et ça faisait effet de tribune en fait, c'est ça qui était marrant. Et c'était une grande colonie, on était 120 adolescents et on était les 120 sur les escaliers. On était les seuls à supporter l'équipe de France parce qu'il faut savoir que on n'est pas en odeur de santé sur les territoires espagnols. Et donc ils étaient limite même pas pour le Brésil. Ils étaient contre la France, donc même si ça avait été France, Triangle des Bermudes, ils auraient été pour le Triangle des Bermudes. Donc il y avait les animateurs, il y avait une belle quinzaine d'animateurs, il y avait vraiment tout le monde, les cuisiniers, les personnels de service, il y avait vraiment tout, on était tous derrière les Bleus. Et ce qui est marrant, c'est que je me souviens de ça, je suis toujours très impulsif devant un match de foot, parce que je suis un amoureux de football, je suis abonné au Parc des Princes depuis plus de 15 ans. Et je suis toujours impulsif, je suis toujours le premier à sauter dès qu'il y a une occasion de but, dès que ça touche un poteau... Hein. Et dès qu'il y a un but, à peine la balle est rentrée, je suis le premier à être debout à sauter. Mais là, sur les deux premiers buts, j'y crois pas. Je me lève pas. Je me lève au bout de. Enfin, je laisse attendre la latence. Zidane met le premier but et tout le monde se lève sauf moi. Je reste assis 2 secondes. Parce que je sais pas, j'y crois pas. Je me dis, ça va être refusé. En fait, c'est trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. Donc tout le monde se lève. Et même pas une demi-seconde. Et quand je me dis. Enfin, quand je réalise que oui, il y a but, c'est dedans. On mène 1-0. Je me lève et je crie.
Tu cries quoi?
Bah, je crie, je lâche tout, quoi. Un très animal, quoi. J'ai pas le souvenir d'avoir chanté, on était. On n'a même pas lâché, on est allé les Bleus. On vivait le match, en fait, on soufflait sur chaque action, sur chaque. Ma première finale de Coupe du Monde, parce que c'est mon pays qui la joue. Et je la vis tendue. Ce qui était magique dans ce match-là, c'était que personne se connaissait, mais tout le monde se sautait dans les bras, en fait. La colo, elle a démarré, elle a terminé sur ça. Elle a démarré dans le sens où l'équipe de France, elle a fédéré toute la France. Mais ce qu'ils savent pas, ils ont réussi à fédérer une colonie de 120 gamins qui avaient passé un sale voyage, qui se connaissaient pas et qui ont fait démarrer une colo sur une ambiance fraternelle, une ambiance festive, une ambiance. Et aujourd'hui, on en parle encore parce que ce qui est marrant, c'est que j'ai gardé des liens avec pas mal d'animateurs. Ce qu'on trouve marrant, c'est que On a passé la barrière ado-animateur, on était français, tous supporters de l'équipe de France.
Attention à ce corner pour l'équipe tricolore, il y a des joueurs de tête.
Premier corner pour l'équipe de France.
Et dans la surface de réparation, le ballon pour Zidane. Et but ! But de l'équipe de France ! Sur le corner d'Emmanuel Petit, la tête de Zizou. Premier but pour l'équipe de France ! 1-0 pour la France ! 1-0 pour la France !
Je m'appelle Nordine, j'ai 21 ans et le jour de cette fameuse finale de Coupe du Monde, j'étais chez moi, assis en face de ma maman et je regardais avec impatience donc ce fameux match parce qu'à l'époque j'étais pas un grand supporter de foot ni de l'équipe de France et donc voilà, c'était pour moi quelque chose d'assez spécial parce que je savais pas ce que c'était en fait une finale et là j'ai découvert avec ce match France-Brésil ce qui était une finale, ce qui était le football et donc voilà, j'étais dans mon salon, c'était tous réunis, il y avait mon cousin qui était venu spécialement qui était plus jeune que moi, il a 3 ans de moins que moi et lui il était anti-français, alors c'était parce qu'il y avait les Ronaldo en face avec le Brésil. Et pour se taquiner, on s'est peint les drapeaux de la France avec de la peinture d'école. Avec de la gouache, j'ai mis de la peinture, je me suis fait le drapeau de l'équipe de France, joue droite, joue gauche, donc bleu, blanc, rouge. Alors je l'ai mal fait parce que je l'ai fait tout seul, mais le cœur y était, donc voilà. Et ça durcit très très vite. Et la peau tire, mais pendant une heure et demie, jusqu'au 3-0, jusqu'au but d'Emmanuel Petit, on restait avec la peinture, lui le Brésil. Moi la France, et on a souffert, mais c'était moi, ça m'a fait quelque chose. Mais sur le moment, on sent pas la douleur parce que on voit un but de Zidane, un deuxième, et ensuite on voit une domination française. Pour moi, c'était voilà, j'étais content sans comprendre en fait sur le moment. Mais c'est après le 1-2-3-0, après qu'on voit Jacques Chirac à l'époque président qui était content pour l'équipe de France, là on commence à se dire, c'est ce 12 juillet, ça veut dire quelque chose en fait. Et c'est quelques mois après que j'ai compris que ça a quand même marqué le football français.
Corner qui tirait par Emmanuel Petit. Attention à cette reprise une nouvelle fois de Guy Marche qui va rentrer. Centre de Guy Marche, nouveau corner.
Allez. Recorner. Durkheim.
Avec ce corner, le but, ça y est. Le but marqué par Zidane, le deuxième. Le deuxième. Le corner de Durkheim. Le deuxième de Zidane. 2-0 pour l'équipe de France de football.
On n'en revenait pas, quoi. La France, en finale de la Coupe du Monde, marque contre le Brésil. La joie, mais vraiment, on n'en revenait pas.
Mais il y avait beaucoup de frustration, parce que toi, tu ne voyais rien.
Oui, mais les gens qui étaient dans le bar explosaient. Ouais, un but, machin. Ouais, c'est Zidane, machin. On savait après coup, on était tenu au courant par le brouhaha des gens. Et dans la rue, ça explosait. Le premier but a explosé. Rebelote, deuxième but. On n'y croyait pas. Là, on sautait sur le toit de la voiture. À la fin, quand je suis descendu de la voiture, le toit était vraiment amoché, quoi. Amoché. J'ai demandé, elle appartenait à qui, vous savez? Et on m'a dit, oui, elle appartient à un des barmen. Et il s'en fout complètement. Rien à foutre. Il aurait pu sortir, nous dire, descendez de ma voiture, tu vois. Je pense qu'il n'y a même pas pensé. Le troisième but a parachevé, si on peut dire, le truc, mais c'était parti, quoi. C'était la fête.
8 minutes et 50 secondes. Denilson qui frappe le sixième corner de la deuxième mi-temps pour les Brésiliens. Pied gauche toujours. Et ballon écarté. Dugarry qui était venu dans ses 16m50.
À gauche, ils ne reviennent pas les Brésiliens.
Allez,
à gauche.
Emmanuel Petit.
Allez, à gauche, à gauche, à gauche.
Qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque. Voilà. Emmanuel Petit qui marque. L'équipe de France qui est championne du monde. C'est officiel. C'est sûr. C'est certain. Il ne peut plus rien nous arriver. La France est championne du monde.
Ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
As long as I know how to love, I know I'll stay alive.
tu te souviens des réflexions ou des mots incroyables des commentateurs sportifs?
Ouais, je me souviens de Thierry Roland, comme si c'était hier, qui a lâché un « oh putain » en plein TF1, donc devant, je pense, allez, une quinzaine de millions de téléspectateurs. Le « oh putain, on peut mourir tranquille ». Et il se rattrape, il dit non, bon, mourir le... Et Larquet, et Jean-Michel Larquet qui le stoppe. Donc il lui dit clairement de se la fermer de manière très gentille. Il lui dit, je me rappelle très bien, il lui dit, bon Jean-Michel, je pense que là, va falloir savourer en silence. Ça, c'était marrant. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, ils étaient plus commentateurs, ils étaient plus journalistes. C'était deux gamins qui avaient suivi l'équipe de France depuis plus de 30 ans et qui vivaient un rêve... Je me souviens plus des commentaires sur le troisième but, mais c'était terminé. Enfin, il y a aucun commentaire technique sur la façon dont il a marqué. C'était oh super, je sais plus trop, mais voilà, c'est tout le monde était Jacques Chirac qui reprend le chant avec les supporters, qui se retrouve en maillot dans le vestiaire à sauter, à chanter, à se prendre des rafales de bouteilles de champagne. Donc tout le monde quoi. Ce match-là, il a fait sortir de sa morosité, si je puis dire. Il a fait sortir tout le monde de son rôle. On est tous devenus hommes. On n'était plus directeur de colo, on n'était plus journaliste sportif, on n'était plus président de la République, on était français et on était champion du monde, quoi. C'est ça qui est beau. Voilà, c'est ça qui est beau.
Je vais vous couper, Zinedine Zidane en direct, oui, sur Canal+.
Pour la première fois, la France est championne du monde, donc c'est extraordinaire, c'est ce qu'on attendait, c'est ce que tout le monde attendait. C'est fabuleux, enfin, il n'y a pas de mots pour. Hein.
Ouais, mais ce qui est fabuleux aussi, c'est que les deux buts, ils sont de vous.
J'avais envie de marquer au moins un but dans cette Coupe du Monde. Et il ne me manquait plus que la finale pour le faire. C'est vrai que j'en marque deux d'affilée. Et en plus de la tête, donc ce qui n'est pas mon point fort. Donc, fais-moi. Pour ce soir, c'est bien.
Cette victoire face au Brésil a marqué bien sûr le football français, mais ça a surtout aussi marqué moi le point de départ d'une découverte, c'est-à-dire le football de manière générale. Je supportais pas vraiment la France dès le début de cette Coupe du Monde. Hein. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à aimer, parce que je voyais qu'il y avait un engouement et tout le monde commençait vraiment à s'intéresser. Ça a commencé, voilà, la pression et l'amour pour ce pays, enfin pour cette nation de football. C'est à partir de là que ça a commencé vraiment à monter. Et même, je voyais ma mère qui n'aime pas le football, qui elle, que ce soit l'Algérie ou la France qui joue, elle s'en fiche complètement, mais là, elle était également à fond dedans. Elle s'est pas peinturée de drapeau, mais elle était quand même derrière Zizou. Elle disait Zizou, Zizou, parce qu'elle entendait tout le monde dire Zizou, donc elle disait Zizou. Je pense qu'on a beaucoup joué sur le Zidane qui est de Béjaïa, parce que ma maman est de Kabylie, donc on a un peu joué là-dessus. On lui disait, elle est restée du début à la fin, jusqu'au but d'Emmanuel Petit, elle était là. Moi, je pense qu'il porte une grande fierté, en fait. Moi, je pense, hein, surtout. C'est vrai qu'on a eu, avec mes amis à l'époque, donc en primaire et collège, et ensuite lycée, parce que ça continue même maintenant. Hein. Quand je parlais de Zidane, je disais toujours Zidane qui est donc d'origine algérienne. Alors, je disais pas le joueur de l'équipe de France. Je disais, non, mais Zidane, il est d'abord français. Je fais, oui, il est français, mais il est aussi algérien. Ses parents sont algériens. Et ça, on avait des petits différends avec nos amis, parce que pour moi, c'est tout d'abord une fierté algérienne. Je disais, voilà, il y a un Algérien qui a réussi dans l'équipe de France. Mais non, eux, ils disaient, non, il est d'abord français. Donc voilà, on s'embrouillait un petit peu par rapport à ça. Mais moi, voilà, c'est surtout cette fierté-là. Et c'est quand même quelque chose de fort. Il a réussi à regrouper comme ça des familles entières, à rassembler même des peuples, on peut le dire. En France, voilà, on se réunissait tous. On allait voir sur les grands écrans, dehors, les matchs de l'équipe de France, parce qu'il y avait Zidane qui jouait.
Alors je crois que le moment, du grand moment... Le moment historique, alors ça c'est la photo dont le monde entier va se souvenir, au moment où Didier Deschamps va prendre la Coupe du Monde. Regardez,
il n'a pas encore,
il y a le public qui est en train de rendre une ovation extraordinaire, et voilà, c'est fait, le président de la République est en train de lui donner, voilà, c'est fait, vous entendez, la Coupe du Monde est en France, écoutez cette musique. Regardez, c'est émouvant, c'est fabuleux. Les joueurs s'embrassent. C'est certainement, dans la vie de tout le monde, l'un des plus grands moments émotionnels de ce 20e siècle en ce qui concerne le sport, évidemment. Regardez l'équipe de France de football.
Pour revenir à ce fameux soir où tu t'es peinturluré en bleu, blanc, rouge le visage, comment t'as fait pour enlever cette peinture ?
Bah, juste après le match, j'ai pas pensé à l'enlever en fait. Après le match, j'ai pas pensé à enlever cette peinture parce que c'était pas le moment en fait. J'y pensais pas. J'avais qu'une chose en tête, c'était d'aller crier avec tout le monde. Pourquoi ? À l'époque, je ne savais pas pourquoi, mais j'allais crier. J'étais sorti. J'étais avec mon cousin. On est parti rejoindre des amis, donc avec mon frère également. Et on criait. Voilà, c'est tout. On était dehors. On s'était cassé la voix pour l'équipe de France, pour ce fameux 1-2-3-0. Et voilà. Donc j'ai pas pensé à ce moment-là à enlever cette peinture-là parce que je sentais plus de douleur. Il y avait plus rien. C'était l'euphorie, quoi. Et après, oui, après, j'ai dû l'enlever, et c'est vrai que c'était un peu plus galère parce que ça veut pas partir au bout de 10 minutes, d'accord, mais au bout de 3 à 4 heures, c'est un peu plus compliqué de l'enlever. Donc, c'était tard le soir, hein, il était peut-être 11h, minuit, donc fallait l'enlever. Donc, j'allais dans la baignoire et on frottait. Et là, par contre, certes, là où il y a une grosse douleur, une très très forte douleur parce qu'il fallait frotter avec une éponge, et en plus, c'était une éponge assez usée, donc c'était les éponges un peu qui frottaient. Et donc, voilà, j'étais plus bleu blanc rouge, j'étais rouge tout court là.
On va aux Champs-Élysées, donc la fête tout le long, hein, Rivoli jusqu'aux Champs-Élysées. On arrive aux Champs et l'image finale, si je peux dire, elle est vraiment mais gravée, si je peux dire, dans ma tête. C'est l'Arc de Triomphe et ils avaient projeté donc les visages des footballeurs. Et je ne sais pas pourquoi, je me souviens que de Zidane.
Aux Champs-Élysées où se trouve Jean Prunetta. Jean Prunetta, vous êtes là ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Jean.
Alors, je vais essayer de vous entendre, car je peux vous dire qu'ici, c'est, et on s'y attendait évidemment en cas de victoire, de la folie. Déjà que je ne suis pas grand, mais on représente un tout petit point dans cette marée humaine qui est en train de déferler sur les Champs-Élysées. Des milliers de personnes, voilà, on va peut-être demander votre avis.
C'est sur la voiture, là.
En fait, ça s'est déclenché avec le but de Laurent Blanc contre le Paraguay. À ce moment-là, on a entendu soudain tous les klaxons de Marseille sonner en même temps. Et depuis, eh ben, Marseille n'aime pas que l'OM. Marseille a deux amours. Et ici, on a eu une foule considérable et extraordinaire dans tous les sens du terme. Ce que peut donner cette foule qui espérait que Zinedine Zidane, c'est l'enfant du pays, c'est l'enfant chéri, et pour tout un tas de raisons, parce que Marseille c'est aussi ses quartiers, et que dans ses quartiers, eh ben Zidane qui devient le...
C'est totalement la folie ici aux entrées de Lille. Il y a une foule de jeunes qui descend de tous les côtés, d'ailleurs on n'a pas trop l'habitude de les voir ici. Ils affluent tous vers la place Masséna. Et que finalement on n'avait pas vu autant de monde ici dans les rues de Nice avec des drapeaux bleu, blanc, rouge depuis la libération.
À partir du moment où la France a gagné la Coupe du Monde en 98, tout le monde était français. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'on en a fait un marché, parce que tout le monde a dit l'équipe Black Bomber, l'équipe Black Bomber. Mais moi qui joue au football depuis tout petit, c'est les meilleurs qui jouent. Et sur ce terrain, il y avait les meilleurs. Et ce qui était bien, c'est que on se disait, voilà, on est la meilleure équipe du monde parce qu'on est les meilleurs. Pas parce qu'on est noir, on est arabe, on est blanc. Parce qu'on est les meilleurs. Je crois que c'est SOS Racisme qui avait fait cette pub, qui a dit le 12 juillet 98, 60 millions de Français étaient déçus de voir cette finale se jouer sans blanc. Laurent Blanc, qui était le défenseur emblématique de l'équipe de France cette année-là, était suspendu pour la finale. Et donc ouais, on avait tous un peu les chocottes de voir cette finale se jouer sans Laurent Blanc. Parce que, enfin, pour moi personnellement, c'était le meilleur défenseur du monde.
Et depuis, tu l'as regardé combien de fois ce match ?
Je le regarde plus, mais j'ai dû le regarder. Allez, 10 fois. Ça m'étonnerait pas de me rendre compte que je l'ai regardé 10 fois. 10 fois. Mais je m'en lasse pas. Hein. Les deux buts de Zizou, je m'en lasse pas. Non, franchement, je m'en lasse pas. C'est beau, quoi. C'est net, sans bavure. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de le ballon, il est rentré, il n'est pas rentré. Hors jeu, pas hors jeu. Les trois buts sont nets et sans bavure. C'est, voilà, c'est ça qui est beau. C'est sans bavure.
Dans le monde voyager, j'ai vu des jeunes dans les rues jouer au ballon pieds nus. J'ai jamais pu résister à l'appel de tous ces pieds. J'ai dribblé et j'ai shooté. Le soir, j'étais intégré.
Depuis que je sais marcher. maintenant l'hymne des footeuses de Y, l'équipe féminine d'Arnaud Bernard.
Et l'on s'en fout de se casser les guitoles, et l'on s'en fout pourvu qu'on tire un shoot.
Champion de rugby. Alors j'ai proposé à la mairie, enlevé de rideau du premier match de la Coupe du Monde, on organise un grand match de foot avec un ballon de rugby, avec des stars du foot à la retraite, genre Pelé, Platini, Fontaine. Et ça, ce sera un match à rebondissement. Et avec la télé, le public du monde entier va s'écrouler de rire. En mai 68, t'avais des gauchistes qui disaient « Le sport, c'est un abêtissement ». Ils parlaient de sport collectif, bien sûr, des sports populaires. Eux, ils allaient au ski, ils faisaient du karaté pour s'entraîner à la révolution. Mais nous, on a grandi en jouant dans les terrains vagues. On rentrait de l'école, et allez, on posait le cartable et hop, le foot, pendant des heures, déjà. Pour s'amuser, pas pour la compétition. Quand j'avais 10 ans, mon père il m'a amené voir les Harlem Globetrotters. Et après moi je rêvais de monter une équipe de foot comme ça, on s'entraînait. Et je me suis toujours dit, le jour où les Noirs américains vont se mettre au foot, aïe ça va faire mal. Mais nous on sera prêts.
On veut jouer au foot, on veut jouer au foot, on veut jouer sur la place du marché. On veut jouer au foot, on veut jouer au foot, on veut jouer, on veut pas déménager.
Moi j'ai connu le plus grand joueur de foot du monde, le meilleur joueur de foot.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, rien à foutre ou pas, le dernier épisode d'une série de rediffusions d'été avec cet hommage ou ce souvenir du 12 juillet 1998, diffusé pour la première fois le 12 juillet 2011. Un reportage signé Leïla Djitli, réalisé par Annabelle Brouard et Julie Béressi, avec un coup de main d'Éric Lancien. Les archives ont été trouvées par Hervé Evano, l'attaché de production, c'est Sandrine Chaperon. Merci à Nordine, à Saïd et à Dave. Les réseaux sociaux pour partager nos émissions, si elles vous ont plu, vous les connaissez, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à faire circuler, à commenter, à nous dire ce que vous pensez de notre travail. On vous y attend avec impatience. Dans quelques instants, sur France Culture, Culture Musique. Restez à l'écoute.